Mesdames et messieurs, bonsoir. Pardon pour ce léger retard. Comment vous dire ? À la fois, je ne peux pas être plus content de toute la rentrée littéraire française, là, de cet automne romanesque, plutôt riche d'ailleurs, que de recevoir Gwenaëlle Aubry. Et en même temps, à quoi bon ? Non, parce qu'il y a des livres qui se prêtent plus ou moins au débat public. Et d'autres qui sont peut-être plus explicitement des livres, selon mon cœur, selon le vôtre, certains nombres parmi vous en tout cas, se prêtent à un dialogue très intime, quelque chose qui doit être de l'ordre de la relation exclusive entre un auteur et son lecteur. Et ce livre-là, dont je m'empresse de dire, puisqu'après tout je l'ai écrit donc je peux le dire, qu'il est pour moi le plus beau livre de cette rentrée littéraire, pardon pour ce vide parade, ce livre-là a trait vraiment explicitement avec l'intimité. Donc je suis un peu embarrassé avant de commencer cette rencontre. D'un autre côté, je me dis que vous devez l'être encore plus que moi, et quelque part ça me rassure, Gwenaëlle Aubry. Alors commençons, si vous le voulez bien, par le commencement, c'est-à-dire le titre, Personne, et faisons rimer allègrement ce magnifique livre avec l'almanach Vermeaux. Avez-vous eu conscience du calembour lacanien de votre titre, le père sonne?
Je l'ai entendu tard, en fait. Oui. Non, j'en ai pas eu conscience d'emblée. Le titre, pour moi... Merci tout d'abord pour ce que vous avez dit de ce livre et bonsoir à vous tous. Non, ce titre d'abord valait pour moi en ce que personne est le nom à la fois de l'identité et de la place vide. Donc ce que ce titre faisait résonner, c'était à la fois le deuil, l'absence évidemment. C'était aussi le masque, persona en latin. Voilà, donc à la fois l'identité et l'absence de celle-ci, absence vécue ou bien dans le deuil, donc vécue par moi dans le deuil, absence vécue, éprouvée de son vivant même par la personne dont il est question dans ce livre.
Alors je disais, on commence par le commencement, donc continuons par le commencement, naissance du livre. Ce livre qui tourne autour de la figure de François-Xavier Aubry, votre père, aujourd'hui disparu. À quel moment vous êtes-vous dit, est-ce que c'est en découvrant le manuscrit qu'il a laissé, on va en parler plus tard, voilà, j'ai là quelque chose qui va être mon prochain livre.
J'écris quelque part dans ce livre qu'il devait être depuis longtemps, que... Je le portais sans doute, enfin ça je le dis pas, mais je le dis pas dans le livre, mais je le portais sans doute depuis très longtemps. Il n'est pas impossible que mes précédents romans, plus conformément, plus normalement romanesques, l'aient d'une certaine façon déjà cryptés. Enfin, d'ailleurs, d'une certaine façon, tous mes livres précédents se trouvent rassemblés dans celui-ci. Donc je le portais sans doute depuis très longtemps. Et cependant, j'écris que si je l'avais écrit plus tôt, c'est-à-dire du vivant de mon père, ça aurait été un autre livre, un livre noir, plein d'aveux et de violence. Et donc j'ai eu besoin, c'est vrai, de cette... ça peut paraître curieux dit comme ça, mais... De cette médiation de l'absence et de cette médiation aussi du texte qui m'a été légué.
Alors aujourd'hui, le livre vit sa vie plutôt bien, comme chacun sait. Et j'ai envie de vous interroger sur cette presque cette incongruité, c'est-à-dire que ce livre qui a ce point à voir avec l'intimité, comme je le disais en introduction de notre rencontre, qu'aujourd'hui unanimement, il a reçu un accueil critique absolument unanime. D'ailleurs, vous me permettrez de dire que une fois de plus, c'est pas la première fois, le premier à en parler, alors que le livre était loin d'être sorti encore, c'était dans le courant. Toute fin du mois de juin, si mes souvenirs sont bons, c'est mon confrère Jérôme Garcin, responsable du rédacteur en chef culture au Nouvel Observateur, qui a été le premier à et on est quelques-uns à écouter assez volontiers Jérôme Garcin quand il a ce ton-là et cette persuasion-là. Nous n'avons pas été déçus. Donc Jérôme Garcin, le premier, en a parlé, tout le monde en a parlé, enfin tout le monde, je ne sais pas, mais beaucoup de monde en a parlé. Le livre a reçu le prix Femina. Le livre, pardon, pour ses considérations marchandes, est rentré dans ce qu'il est convenu d'appeler les meilleures ventes. Bref, ce livre-là, qui a à voir avec l'intime, est aujourd'hui largement porté sur la place publique, largement discuté, largement partagé. Quel est votre... J'imagine que c'est plutôt préférable au silence absolu, certes, mais au-delà de ça, comment vous sentez-vous face à ce vacarme, si sympathique soit-il, qu'aujourd'hui votre livre véhicule ?
Oui, c'est une drôle de chose, hein, dont je ne suis pas sûre encore de mesurer vraiment les effets, en vérité. Enfin, d'une certaine façon, c'est une drôle de chose, mais qui est, voilà, d'une certaine façon, la première grande rupture dans le régime du rapport au livre, c'est la publication. Enfin, voilà. Mmh. Il y a là, de toute façon, une façon de... Voilà, de toute façon, un passage à l'extériorité. Ce livre a été écrit, comme tout livre, dans une très grande solitude. Mais je ne dis pas du tout ça en un sens malheureux, où je crois vraiment que la solitude est la condition première de l'écriture, parce qu'elle est ce qui permet de s'ouvrir... à la foule des autres que l'on porte en soi, que l'écrivain porte en soi, comme le mélancolique. Je crois qu'il y a là une complicité essentielle entre le mélancolique et l'écrivain, même si cette humeur-là, la mélancolie n'est pas autrement familière. Voilà, je pense que seule la solitude donne accès à cette foule intérieure. Et ce régime de solitude, on en sort du moment, de toute façon, où même du moment où on soumet le texte à un éditeur. Donc après, il y a des effets, en effet, d'écho, d'amplification, mais la rupture était là dès avant. Par ailleurs, vous avez parlé d'intimité. C'est vrai que c'est un terme qui revient souvent à propos de ce livre, mais que j'ai tendance, moi, à refuser. Pour moi, le registre de ce livre n'est pas celui de l'intime. C'est celui d'une intériorité, peut-être, mais pas d'une intimité. Alors, le texte dont je suis partie, déjà, n'était pas un journal intime. Il y a eu parfois déjà un malentendu sur ça. Donc, effectivement, ce livre est né d'un legs, puisque j'ai trouvé à la mort de mon père un manuscrit qu'il avait passé les derniers mois de sa vie à rédiger, qui portait un titre, Le mouton noir mélancolique, un sous-titre, Un spectre dérangeant, qu'il avait d'ailleurs rayé, et une injonction à romancer. Donc une injonction qui ouvrait le champ énigmatique du roman. Mais ce texte qu'il avait écrit, il l'avait écrit d'emblée pour que d'autres le lisent. Donc ça n'était pas un journal intime, c'était le récit déjà très construit, très mis en scène, sans doute déjà partiellement romancé, de cette maladie, de la mélancolie. Et on n'était donc pas du tout dans le registre de la confession, de l'épanchement. C'était juste le contraire, puisque c'était à l'inverse une tentative, chaque jour réitérée et chaque jour échouée, de cet homme qui fut mon père, pour coïncider avec un moi qui toujours lui échappait. Alors le registre de l'intime, c'est bien au contraire, c'est celui de la coïncidence ou même de la complaisance avec soi ou en soi. Voilà, il y a peut-être un journal intime dans l'histoire du journal intime qui correspond au registre de ce livre-là, c'est le journal d'Amiel, qui écrivait « Le moi m'intéresse, non parce qu'il est mien, mais bien qu'il soit mien ». Voilà. Et ce que j'ai essayé, moi, d'accompagner et de dessiner à mon tour, c'est cette intériorité qui était envahie par, alors d'abord par une foule d'autres, ça je le disais tout à l'heure, par une multitude de masques, de rôles que le livre fait tour à tour défiler, qui était envahie par le dehors aussi, enfin par le dehors et par l'altérité.
Alors, là où votre livre échappe de pièges, équidistants qui pouvaient le guetter, celui de la stricte, de ce qu'il est convenu d'appeler, ce qui demeure d'ailleurs tout à fait aléatoire dans son acception, mais l'autofiction d'un côté, et de l'autre côté, le rapport clinique, en l'occurrence sur votre père, Là où votre livre échappe à ça, pardon pour le truisme, mais c'est pas si évident, c'est par vous. Et je pense que la grande ligne de tension du livre, ce qui en fait la beauté, mais la beauté presque gênante des fois à la lecture, c'est par vous, c'est par la façon dont vous décidez de vous placer dans ce livre. Où je suis, comment j'interviens et où j'interviens dans le livre. C'est vraiment... je trouve que c'est ce qui fait toute la modernité de ces... Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, si ça l'est pas, c'est normal, parce que pour moi-même, ça ne l'est pas nécessairement, si j'ose dire. Mmh. Il n'empêche que je crois qu'il y a là une piste qui est celle de la révélation de la beauté profonde de ce livre.
Merci. Je ne suis pas sûre que ce soit très clair pour moi non plus, pour être tout à fait franche. Enfin, il n'y avait pas... Il n'y a pas
vous
là quelque chose
posé
de...
La... Pardon,
ah mais oui, bien sûr.
Je me suis posé la question. Est-ce que j'interviens? Si oui, où, quand, comment?
Bien sûr. Non, mais j'ai même commencé par... Je me suis posé la question sous la forme d'un interdit. C'est-à-dire, j'avais commencé par m'interdire l'usage de la première personne. Cette putain de première personne, dit Beckett. Mais j'avais déjà une contrainte formelle très forte, qui était celle de l'abécédaire. Et la contrainte... de l'absence de première personne était trop forte et finalement artificielle. Il reste que j'ai été accompagnée aussi par une phrase de Michel Desbordes dans L'Emprise, qui écrit quelque part dans ce très beau texte inachevé, enfin son dernier texte, où elle évoque aussi son enfance. Il y a une très très belle évocation en silhouette perdue du père, et elle écrit quelque part, je la cite mal et de mémoire, qu'il faudrait trouver une personne pour dire cela, qui ne soit ni le « je », ni le « nous », ni le « on ». Bon. Donc j'ai effectivement essayé de travailler un « je » qui ne soit évidemment pas moi, qui soit d'une certaine façon échappé à lui-même, comme l'est le « je », qui s'exprimait dans le texte dont je suis partie. Donc d'abord, il y a un jeu J.E.U. entre les deux jeux, entre les deux voix, enfin la voix du père et celle de la narratrice qui l'accompagne, ou dont le texte vient l'assertir. Et puis aucun de ces deux jeux n'écrit dans l'évidence du moi. Et ce texte, c'est vrai que, enfin mon propre texte, je l'ai d'abord conçu comme une espèce de chambre d'écho ou de caisse de résonance. C'est-à-dire que l'autre point de départ formel, mais bon, pas seulement formel, c'était qu'il s'agissait d'enchasser d'une certaine façon des extraits du manuscrit de mon père dans mon propre texte. Donc j'avais ce manuscrit, j'avais cette injonction à romancer. J'ai passé beaucoup de temps, enfin, à lire et relire ce texte en me demandant ce que j'allais en faire, comment j'allais obéir à cette espèce de demande spectrale. La forme de l'abécédaire un jour s'est imposée comme nécessaire, vraiment nécessaire. D'abord parce que la contrainte formelle me permettait d'éviter la tentation de l'intime, du petit secret, du roman familial, du roman de deuil, enfin bon, toutes choses que je voulais éviter, et aussi parce que cette forme me paraissait être la plus fidèle à ce que j'essayais de dire ou de décrire, c'est-à-dire à cet éclatement, ce morcellement intérieur. Donc là, à partir du moment où j'ai eu cette forme-là, je savais que le livre pourrait exister. Alors je m'étais imposé un abécédaire exhaustif, parce que plusieurs variations évidemment sont possibles au sein de l'abécédaire. Mmh. Est-ce qu'on traite chaque entrée? Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs mots par entrée, etc. Un abécédaire exhaustif et qui s'est construit à la fois en écho au texte initial, matriciel ou paternel. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement dans ce texte des termes qui revenaient. Il y avait des mots récurrents, clown, James Bond, SDF, bon, c'était là, d'emblée. Et finalement, ce sont ces termes qui ont fonctionné comme des espèces de champs magnétiques autour desquels, peu à peu, ma voix, enfin la voix de la narratrice, parce que ce, une fois de plus, ce jeu, le jeu qui parle là n'est pas moi, pas complètement moi. Voilà, cette voix, des souvenirs, etc., ont pu s'agglomérer. Mais en même temps, les souvenirs étaient tronqués, les photos manquaient. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas du tout de collecter des faits ou d'être dans un dans le souci ou la tentative d'une exactitude. J'ai plutôt cherché à coïncider avec un imaginaire. En fait, c'était plutôt ça, le projet. Et de ce fait, la rencontre avec cet homme dont je tente de parler, c'est faite d'emblée sur le terrain du langage et d'emblée aussi sur le terrain de la fiction. C'est-à-dire que la différence entre la lisière plutôt entre réalité et fiction était d'emblée indécise, elle était d'emblée incertaine. Mon père, comme je crois tout mélancolique, était hanté par un très grand désir de fiction et aussi par un très grand désir de littérature. Il passait son temps à se projeter dans des personnages fictifs.
Je crois que c'est le cœur même du livre.
Oui.
Cet appel permanent de fiction, oui, qui passe partout,
oui,
il me semble.
Oui.
On va y revenir si vous voulez bien, mais auparavant, parce que ça reste très théorique ce qu'on dit là, peut-être, si vous voulez bien, on n'a rien préparé, donc c'est vraiment c'est vous qui décidez. Vous pourriez lire quelques pages,
oui,
pour expliquer comment vous en êtes sorti avec tout ça.
Je peux peut-être lire les premières pages.
Très bien.
Donc c'est A comme Antonin Artaud. Le 9 décembre 1945, Antonin Artaud écrit depuis Rodez à Henri Parizeau. Il dénonce les armées d'envoûteurs qui de toutes parts le guettent pour faire irruption en lui, camper dans son esprit, parasiter sa chair, se nourrir de sa vie. Il dit ce que c'est que de porter en soi une telle armée, d'être pour soi-même une terre fourmillante et désertée, de ne trouver, à l'intérieur de soi, que l'enfer des êtres extérieurs à soi. Il dit, pire que la douleur, que l'éternel enfer, l'explosion de son véritable moi. Dans cette lettre du 9 décembre 1945, il délire, on peut appeler ça comme ça aussi. Il est Jésus mis en croix sur le Golgotha, puis jeté sur un tas de fumier. Il est le blasphémateur et l'évêque de Rodez, saint Antonin et Lucifer. Et dans les cahiers qu'il noircit cet hiver-là, il se proclame, en outre, père, mère, homme, femme, matière frénétique de tous les engendrements, matrice de figues innombrables. Son corps a pris les dimensions de l'univers entier, est devenu la terre d'élection des théogonies. Son esprit le fuit, mais ramasse en lui toute l'histoire de l'humanité. Il est le maître du réel, le possible est ce dont il décide, l'infini lui obéit, car, dit-il, le réel comprend pas. Il est le réel lui-même, sonore, débordant, pulsa-t-il. Qu'il soit aussi Antonin Artaud, monsieur Antonin Artaud, né à Marseille le 4 septembre 1896, pour être précis, il le signale encore, mais c'est de peu d'intérêt. Une idée de derrière la tête, une thèse périmée. En revanche, il est une chose qu'il sait, qui surnage dans ce naufrage, une vérité calme et limpide à laquelle on sent, lorsqu'il l'énonce, qu'il peut, pour un instant au moins, s'arrimer. Je suis un grand poète, et c'est tout. En cet hiver 45, voilà 8 ans déjà qu'Artaud est interné. Il est passé par l'asile de Sotteville-lès-Rouen, par Sainte-Anne, où Lacan l'a jugé fixé dans son délire, incapable d'écrire à jamais, par Ville-Évrard, où il a été transféré du quartier des agités à celui des épileptiques, du quartier des épileptiques à celui des gâteux, du quartier des gâteux à celui des indésirables. À Rodez, où il arrive en février 43 à demi-mort de faim et vêtu comme un clochard, il parle de Dieu avec le docteur Latrémolière, de poésie avec le docteur Ferdière. Il traduit Lewis Carroll, fait des génuflexions dans la cathédrale, crache et se signe sur le passage des femmes enceintes. Il subit aussi 1200 électrochocs en 3 ans. De ces séances, il sort brisé, plus d'eau ni de contour, un corps sans nerfs, une tête sans sang, un état flac. Pendant des semaines, il se voit à la poursuite de son être comme un mort à côté d'un vivant qui n'est plus lui. Mais il recommence à écrire, à dessiner, à noircir des cahiers. Le 10 décembre 1945, au lendemain de la lettre d'Artaud à Henri Parisot, mon père naissait. J'ignore de quand date sa première hospitalisation. J'aurais pu en retrouver trace, peut-être, dans l'un de ses carnets. Agenda de cuir noir, cahier d'écolier, livre de brouillon, bloc à en-tête d'hôtel, feuilles volantes, notes griffonnées au revers d'un cours, de quoi remplir des cartons entiers. On pourrait, sur certains, poser les noms des hôpitaux et des maisons de santé où il a séjourné. Cahier de la Roseraie, cahier de la Verrière, cahier d'Épinay. Mon père n'était pas un grand poète et c'est tout. Il n'a pas inscrit sa souffrance en beauté et en puissance, sa folie en génie, inventé une langue de sacre et de massacre. J'ai lu quelques-uns de ses cahiers, je les ai oubliés. Tout ce que je sais, c'est que chaque jour de sa vie, ou presque, il a écrit. Chaque matin, chaque soir, il s'est assis à son bureau, il a allumé une palmale ou une craven A dont la cendre troue les feuillets, et il a tenté de recomposer sa vie. Pas de récits, sinon de rêves, mais des comptes, des bilans, des listes de choses à faire. Téléphoner aux filles, payer loyer, tenir jusqu'à demain, et le lendemain, il raye, et en marge, il écrit « fait ». Et surtout, sans cesse recommencer, des schémas. Ligne droite partagée en segments, segments de bonheur, segments de malheur, segments avec et sans alcool, avec et sans hospitalisation, fléchés de dates et de noms propres, puis, à mesure, de moins en moins de lignes droites, mais des séries de triangles inversés, gouffres et sommets, crêtes et failles, qui dessinent, sur le papier quadrillé, la carte de sa mélancolie. De la vie de mon père, je conserve le relief intérieur, le relevé sismographique. Pas plus que lui, je ne saurais, ni ne voudrais, la raconter, parcourir ses noms, ses dates qui composent l'histoire à l'ombre de laquelle j'ai grandi. Je peux en suivre du doigt la géographie accidentée, la géométrie inexacte. Je sais qu'elle dessine la part d'ombre, le négatif de ma vie. Qu'aux failles correspondent ses absences et que, même à distance, j'y étais avec lui engouffré. Pas plus que lui, je ne sais qui il était. Tout ce que je sais, c'est que chaque matin, chaque soir, quand il ouvrait ses cahiers, c'était cela qu'il cherchait. Ses lignes innombrables, ses caractères élégants, réguliers, même dans les pires moments, tissent le filet où il cherchait à s'attraper, tendent la toile dont il était le centre absent. C'était cela qu'il cherchait, se saisir, s'attraper, se mettre la main au collet. On raconte, je ne sais plus où, cette histoire du golem qui, parce que chaque matin il oubliait où étaient ses vêtements, décide un soir de noter leur emplacement. Au réveil, il parvient enfin à remettre la main sur chacun, passe pantalon, veste et chapeau, mais soudain il s'aperçoit qu'il lui manque encore quelque chose. Moi-même, se demande-t-il soudain, où me suis-je laissé? Où suis-je donc? Voilà, je crois, ce que faisait mon père chaque matin. Il attrapait cigarettes, stylos et cahiers, et il se demandait où il s'était laissé. Il tendait la main, saisissait des défroques, des costumes rapiécés, des manteaux d'arlequin. Sur la page blanche surgissaient les masques de sa scène intérieure, un peuple nombreux, bariolé, titubant, le fils prodigue et l'amoureux éconduit, le clown et le pirate, le flic et le truand, le moine et le débauché, le bourgeois et le clochard, le sage et le fou. Mais lui, dans tout cela, il n'y était pas. Parfois aussi, il tentait un portrait, il énumérait ses qualités, nom, prénom, date de naissance, profession, signe particulier, puis il s'arrêtait net, comme s'il n'y croyait pas. Lui-même, où s'était-il laissé? Où était-il donc?
Merci. C'était donc le premier des 26 chapitres qui composent ce livre, d'ailleurs pas dans son intégralité, Antonin Artaud. Peut-être plus qu'Artaud, enfin différemment. Il y a pour moi dans ce livre un écrivain tutélaire, il y en a toujours, un bon génie en l'occurrence, c'est Pérec bien sûr, oui. dont un des chapitres fait explicitement référence. Puisque ça ne surprendra personne, c'est le chapitre W, ou le souvenir d'enfance. Moins d'ailleurs pour ce W qui tombe bien dans votre projet romanesque, que pour cette nécessité de structurer Le chaos qui est toute vie, qui était celle de Pérec, comme on le sait, et qui est en l'occurrence celle de votre sujet, votre père. C'est un livre qui se donne beaucoup aux structures, à travers cette idée d'abécédaire, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vraiment ça vous est apparu comme un contrepoids nécessaire?
Oui. Oui, oui, mais pas dans un a priori formaliste. D'ailleurs, Pérec n'était pas un formaliste. La structure, alors, en effet, je l'ai dit tout à l'heure, est apparue comme à la fois une solution et une espèce de protection contre la tentation de l'intime. Et puis, en même temps, cette forme me paraissait adéquate. Il s'agissait de dire une multiplicité, de trouver une structure qui permette, d'une certaine façon, de coïncider avec la déstructuration, oui, avec le morcellement. Et l'abécédaire venait y répondre. Pérec est présent à travers, effectivement, ce chapitre W. La lettre D appelle disparu, c'était encore oui, en écho à lui. En revanche, il y a un E dans ce livre, E comme enfant. Voilà, donc ça n'est pas un livre sans eux, c'est un livre sans moi, plus que sans eux. Et Pérec est présent encore et peut-être surtout à travers une citation de W que je oui, mets en exergue, que je peux lire, que je la trouve extrêmement belle. Je n'écris pas pour dire que je ne dirai rien, je n'écris pas pour dire que je n'ai rien à dire, j'écris. J'écris parce que nous avons vécu ensemble, parce que j'étais un parmi eux, ombre au milieu de leurs ombres, corps près de leur corps. J'écris parce qu'ils ont laissé en moi leur marque indélébile et que la trace en est l'écriture. L'écriture est le souvenir de leur mort et l'affirmation de ma vie.
Oui, c'est magnifique.
Oui, c'est magnifique et ça porte aussi... voilà, c'était aussi une façon pour moi de dire que ce roman n'était pas un roman de deuil. Enfin, j'ai dit tout à l'heure que c'était aussi l'une des impasses que je voulais éviter, le roman de deuil, autant que le roman familial, autant que la confession, autant que l'autofiction, etc. Voilà, l'écriture est le souvenir de leur mort et l'affirmation de ma vie. D'autant qu'il y avait, dans le texte dont je suis partie, il y avait aussi une pulsion vitale très forte. On n'était pas du tout dans un registre pathétique. Enfin, j'ai essayé de trouver d'ailleurs une espèce d'empathie qui aille sans pathos. Enfin, ce texte a été écrit, je crois, dans une très grande, je veux dire, le texte de mon père, dans une très grande lucidité, et à un moment vraiment où une vie nouvelle, mais au sens fort du terme, commençait à se dessiner.
Et à quel moment vous avez eu l'impression que justement cette empathie, ou plutôt cette musique, puisqu'on vient de vous écouter, était là, quoi. Que donc le livre était là.
Mais, en fait, j'ai eu... moi, j'écris de façon très linéaire, donc j'ai effectivement commencé par A, comme Antonin Artaud. Cette première page que j'ai lue tout à l'heure a été très, très longue à venir, finalement. Voilà, une première page, ça donne la note à un livre entier. Et puis, à partir de là, j'étais encore un petit peu à tâtons, peut-être jusqu'à C ou quelque chose comme ça. Et tout à coup, je ne comprenais pas vraiment ce que je faisais. Enfin, je savais un peu où j'allais, mais je ne comprenais pas vraiment ce que je faisais. Et puis, tout à coup, je ne sais pas, j'ai eu l'impression... ne serait-ce que dans l'abécédaire, il y avait un mouvement. Le texte a commencé comme ça, à pouvoir s'engendrer un peu... pas tout seul, quand même pas, mais... Et puis, tout à coup, j'ai eu l'impression aussi que je commençais à comprendre des choses, qu'il y avait effectivement des mots qui résonnaient et qui pouvaient fonctionner, je le disais tout à l'heure, comme des champs magnétiques. Voilà, par exemple, quand j'écrivais... B, c'est Bond, James Bond. J'ai commencé à comprendre que la figure de James Bond, pour mon père, n'était pas la figure du héros, mais celle de l'agent de l'ombre. Et finalement, autour de ce terme d'agent de l'ombre, plein de choses sont venues comme ça s'agglomérer, se réunir. Et voilà, à un moment, il y a eu cette espèce de fonctionnement-là. Enfin, ces mots qui fonctionnaient comme des aimants. Et à partir de là... Le texte pouvait se construire et je savais qu'il y avait un mouvement et que je pouvais le suivre.
Gwenaëlle Aubry, comme nous ne savons pas comment vous dire merci, nous allons nous en dispenser cavalièrement et vous dire que nous vous suivons.
Merci.